Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au micro avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna pour nous évoquer la sortie de la nouvelle Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, qui paraîtra comme toutes les semaines en kiosque à partir de ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour, bonjour Bruno.
Alors à la une de cette Marseillaise pour cette nouvelle édition.
Oui, alors à la une de la Marseillaise de vendredi, donc de vendredi prochain, en nous proposant un dossier sur la vie chère, à l'occasion de la journée nationale du 29 septembre, organisée par plusieurs syndicats,
oui.
Ils sont aussi mobilisés bien évidemment dans l'Hérault, donc c'est le syndicat de la CGT, la FSU, Solidaires notamment, et donc dans ce dossier, nous allons expliquer les raisons de leur mobilisation, les principales revendications, notamment les augmentations de salaire, mais aussi des pensions de retraite.
Oui.
Et il y aura aussi les étudiants et les lycéens, les étudiants du SCUM, notamment à Montpellier, qui feront aussi partie des points de rassemblement de cette journée.
Mm-hmm.
Nous sommes allés aussi à la rencontre d'habitants au moment de quand ils font leurs courses, pour bien mesurer quel était l'impact sur la vie quotidienne de la vie chère et de l'inflation. Ensuite, nous avons un dossier, enfin c'est pas un dossier, mais c'est faisant un retour sur ce qui s'est passé lundi à Montpellier, qui est en lien aussi avec les journées d'action qui se préparent.
Hein, oui.
C'est les 120 ans du congrès de la CGT, qui s'est tenu donc en 1902 à Montpellier et qui a été une étape importante pour la Confédération Générale du Travail, donc la CGT, qui va se constituer justement en septembre 1902, en termes d'organisation, en véritable confédération. Donc il y a eu une série de tables rondes qui ont été organisées. Philippe Martinez, secrétaire général national, était à Montpellier lundi. Donc
oui.
On revient sur le pourquoi de cette célébration et en quoi elle s'inscrit dans les luttes d'aujourd'hui pour ce syndicat.
D'accord.
Alors après, nous avons aussi, on est toujours sur des questions de droit, hein,
mm-hmm.
Puisque nous avons dans nos colonnes Aline Fauchère, qui est la présidente du CIDF de l'Hérault, c'est-à-dire le centre d'information sur le droit des femmes.
Oui.
Et donc, on revient évidemment sur cette association qui fête ses 40 ans dans l'Hérault. Évidemment, elle nous parle de l'histoire, évidemment, et des combats d'aujourd'hui,
mmh.
notamment la question des violences conjugales, des féminicides. Nous sommes ravis d'avoir dans nos colonnes la présidente du CIDF 34. Nous proposons aussi de revenir sur l'inauguration d'une école à Montpellier,
oui.
qui a été baptisée Samuel Paty, du nom de cet enseignant qui a été assassiné donc en 2020,
mmh.
et c'est un acte fort de la part de la municipalité. Le ministre de l'Éducation était présent aussi,
oui.
et donc il y a eu des prises de position sur des questions de l'enseignement, de la laïcité. Et c'est aussi un bel hommage d'avoir donné le nom de cet enseignant à cette école.
Mmh.
Alors, sur l'aspect aussi, on va dire, vie quotidienne et santé, puisque c'est un peu la semaine de la journée de lutte contre la maladie d'Alzheimer,
oui.
nous, on avons choisi de recueillir le témoignage d'une dame dont le mari est atteint par cette maladie,
oui.
et qui nous explique un petit peu les difficultés du quotidien en termes de devoir évidemment prendre soin de son époux, mais aussi de voir quelqu'un qui n'est plus la personne qu'elle connaissait avant. Donc c'est un témoignage assez intimiste et je pense que ça participe justement de la sensibilisation sur cette maladie, sur laquelle la recherche avance aussi. Il faut être aussi optimiste.
Oui.
Après, sur un plan évidemment beaucoup plus léger,
j'allais dire, oui.
On va revenir, on va présenter la programmation du Rock Store à Montpellier, une scène musicale importante.
Mythique.
Et donc,
une scène mythique sur Montpellier.
Exactement, exactement. Et donc là, c'est vrai que c'est vraiment la saison post-pandémie, même si on ne peut pas non plus complètement cacher le fait que la pandémie pourrait reprendre, mais nous avons maintenant les vaccins. Donc pour les salles de spectacle vivant qui avaient été contraintes de fermer par décision du gouvernement, là, elles s'inscrivent quand même dans une saison pleine et entière dans cette année 2022-2023.
D'accord.
Voilà, c'est l'essentiel. Il y a d'autres choses, mais c'est l'essentiel de nos sujets que nous mettons en avant sur Divergence.
Eh bien, chers auditeurs, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Alors Françoise, le dossier de cette nouvelle édition de la Marseillaise qui paraîtra, on le rappelle, ce vendredi en kiosque est sur la vie chère dans le cadre de la journée d'action sur les salaires du 29 septembre.
Oui, tout à fait. C'est important de décrypter et de donner des clés de compréhension de la situation économique et sociale que l'on vit dans nos territoires. D'un point de vue national, mais évidemment, les territoires font notre pays. Et donc, on est allé poser des questions, notamment aux habitants de l'Hérault, aux habitants du Gard, sur comment eux ils font face à cette inflation record, en dépit de ce que peut dire le gouvernement, disant que la France est moins impactée que d'autres pays en Europe, mais c'est pas ça qui va aider à remplir mieux le frigo. D'où donc la mobilisation du 29 septembre qui porte précisément sur des revendications d'augmentation des salaires, notamment du salaire minimum, d'augmentation des pensions de retraite des mesures aussi de droits comme les 32 heures. C'est une revendication qui est portée notamment par la CGT. Nous sommes allés donc à la rencontre d'habitants au moment où ils font leurs courses et on a pu mesurer l'impact de l'inflation dans leur quotidien.
Et qu'est-ce qu'il en ressort de ça ?
Alors, par exemple, on a un couple de retraités, deux cadres à la retraite depuis 2012, donc 10 ans, et qui expliquent que leur qualité de vie a considérablement baissé et qu'ils réduisent leur budget nourriture, et donc ils voient fondre aussi leurs économies. Ils envisagent même de vendre leur maison pour prendre un logement plus petit, pour s'en sortir, s'ils s'en sortent. On a aussi une jeune femme, mère de 3 enfants âgés de 1 à 4 ans. Alors elle est effarée par l'augmentation des prix des couches et du lait pour les petits. Elle dit que ça devient hors de prix. Il y a une autre jeune femme qui dit que désormais, elle achète de la viande uniquement pour les grandes occasions et qu'elle a évidemment réduit ses sorties, notamment au restaurant. Elle y allait d'habitude une fois par mois et là, ça sera, elle dit, on fera ça si on peut une fois tous les 2 mois.
Ça fait penser à des discours qu'on entendait il y a des décennies en France, en fait. Hein.
Oui, disons que là, on mesure bien qu'elle est concrètement, quand on a le salaire minimum en France est bas quand même par rapport au coût de la vie, ça ne correspond plus. On ne peut plus s'en sortir avec 1 200 euros net, qui est à peu près le SMIG, donc ça, c'est dans les 1 400-1 500 bruts. C'est pour ça que parmi les revendications notamment portées par la CGT, c'est un SMIC de 2000 euros brut tout de suite, ce qui permet aussi d'enclencher une augmentation sur les autres salaires, puisque beaucoup de choses dépendent du niveau du SMIC. Donc là, il y a une vraie bataille, et c'est la question aussi, on le fait expliquer, et on l'analyse, de la répartition des richesses.
Et oui.
Parce que des richesses, il y en a. On n'est pas dans un pays pauvre. On est un pays où il y a énormément d'argent, de milliards notamment, qui ont été générés par la flambée justement des prix de l'énergie due à la spéculation. Et donc, il faut mieux répartir ces richesses. Et l'augmentation des salaires, c'est la meilleure façon de bien répartir les richesses. Donc ces témoignages, notamment, on a des jeunes travailleurs. On a Tony qui est un commercial, il dit lui se serrer la ceinture, il fait plus du tout le plein de son véhicule depuis très longtemps, il envisageait un voyage, quelle folie on a envie de dire avec un de ses amis, mais il est en train de se dire toutes mes économies partent dans la vie quotidienne et ce voyage je vais certainement l'annuler. On a une jeune étudiante en alternance qui, Salomé, donc une fois qu'elle a payé le loyer, la nourriture et les factures, n'a quasiment plus rien. Elle a, par exemple, arrêté de pratiquer le sport pour continuer, dit-elle, à vivre seule, c'est-à-dire à être indépendante et ne pas être obligée de retourner forcée vivre chez ses parents ou dans de la famille.
Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu dans la bouche du SCUM que l'on recevait à vos côtés dans nos studios lundi dernier. Beaucoup d'étudiants sont obligés, à cause de cette augmentation de la vie, de retourner chez leurs parents.
Oui, tout à fait. Surtout que bon, les loyers sont extrêmement chers. Tout flambe, comme nous disait le secrétaire général de la CGT de l'Hérault, Serge Ragazzati, il nous disait tout flambe sauf les revenus. Donc le 29, c'est ça, c'est un grand moment de... Enfin, c'est surtout, c'est notre analyse, c'est le commencement de la mise en, route du mouvement social contre les injustices. Et cette absence totale de partage des richesses qui sont produites, n'oublions pas, par les travailleurs.
C'est ça.
Voilà.
En parlant de mouvement social, la Marseillaise revient sur les 120 ans du congrès de la CGT qui s'est tenu à Montpellier il y a quelques jours.
Oui, tout à fait. Alors, c'était donc lundi. Il y a eu une grande journée d'études organisée par la CGT de l'Hérault, donc l'Union départementale de l'Hérault, et l'Institut d'histoire sociale, aussi bien au niveau national, les IHS, qui sont des lieux aussi de l'histoire où on étudie l'histoire sociale et ce sont des lieux de ressources et de mémoire extrêmement précieux. Philippe Martinez, qui est le secrétaire général de la CGT, a participé à cette journée qui s'est tenue à l'Opéra Comédie de Montpellier, la salle où s'était tenu il y a 120 ans ce congrès confédéral qui a été décisif dans l'histoire de l'organisation, une salle qui a été prêtée par la mairie de Montpellier, avec une banderole qui accueillait les participants où la ville, avec le maire Michael Delafosse, délivrait un message de soutien au monde syndical. D'accord. Et à la CGT en particulier, c'était assez notable. Ce qui est intéressant, c'est que cette journée d'études sur les 120 ans du congrès de Montpellier, alors il faut rappeler aux auditeurs que la CGT est née en 1895 Limoges, mais ce n'était pas le syndicat que l'on connaît aujourd'hui, donc c'est la date de la création, donc c'est très important, mais le congrès de Montpellier en septembre 1902, il a... vraiment structurer la CGT et régit encore les statuts d'aujourd'hui.
D'accord.
C'est ce qu'a expliqué Philippe Martinez, c'est ce qu'il explique dans nos colonnes, puisque nous avons pu le rencontrer et l'interroger. Et évidemment, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a en 2023 le 53e congrès confédéral qui va se tenir à Clermont-Ferrand au mois de mars. Et donc, pour la CGT, pour les délégués CGT, qu'ils soient dans des unions locales, les unions départementales. C'était un moment, cette célébration, on va dire, un moment de formation aussi.
Oui.
C'est-à-dire, bon, on s'appuie sur l'histoire, la construction de ce syndicat, de cette confédération, pour, on va dire, améliorer le fonctionnement d'aujourd'hui. Il y a des gros enjeux, sachant le plus gros des enjeux, c'est, on en est aujourd'hui, c'est un historien qui disait ça lundi, puisque je suis allée assister à une des tables rondes dans le cadre de cet anniversaire, qui expliquait que on en était en France au niveau de syndicalisation du début du XXe siècle.
Ah oui, d'accord. Donc ça, voilà. Ça a fondu.
Voilà. Mais cela dit, il y a tellement de mutations, il y a énormément de luttes qui sont menées par les travailleurs, les salariés. Il y a eu quand même ce qu'on appelle l'ubérisation de notre société, de l'économie, les modes de production qui ont changé, un éclatement aussi de ce qu'on appelait le salariat. Et donc, les syndicats et la CGT doivent absolument être en phase avec ces mutations du travail. Donc c'était passionnant, et c'est pour ça qu'on donne une place conséquente dans le prochain hebdo à ce sujet.
C'est à lire, bien sûr, dans la Marseillaise de vendredi. À lire aussi votre grand entretien avec le CIDF34 qui fête ses 40 ans, et notamment avec sa présidente Aline Fauchère.
Oui, tout à fait. Donc Aline Fauchère nous a accordé ce grand entretien. Comme toutes les semaines, nous avons un ou une invitée, en l'occurrence, pour répondre à nos questions. Et donc, c'est l'occasion. Alors, c'est le Centre d'information sur le droit des femmes.
Mmh.
Donc, comme vous l'avez dit, il fête ses 40 ans. Et donc, il y a eu quand même, en 40 ans, on lui a demandé quelles étaient les évolutions. Alors déjà, sur la structure, elle nous explique que c'était au départ une toute petite association,
oui,
fondée par des militantes à Castries. Et aujourd'hui, c'est une structure de 30 salariés, 50 points d'information sur le département.
D'accord.
Et donc, elle rappelle que vraiment l'ADN de ce centre d'information sur le droit des femmes, le CIDF, c'est l'accès au droit.
Mmh.
Mais il y a aussi évidemment l'accès aux droits, mais ils ont aussi développé le secteur emploi,
oui,
parce qu'elle le dit très justement que l'égalité passe par l'autonomie des femmes.
Absolument.
Voilà, il ne faut pas l'oublier. Et puis l'autonomie et maintenant l'égalité salariale.
Oui.
Autre grande,
on n'y est pas encore,
hein, grande revendication. On n'y est pas encore. Il y a des différences en moyenne de l'ordre d'un peu plus de 20% à travail similaire. Hein.
Mmh.
Et donc, c'est intéressant. Je fais une digression parce que il faut savoir que si les femmes étaient payées avec un salaire égal aux hommes,
oui,
à compétences et à poste égal, ça ferait évidemment beaucoup d'argent de cotisations sociales,
oui,
pour améliorer la sécurité sociale.
Absolument.
Voilà, donc ça c'est quelque chose de voilà qu'il faut toujours rappeler. Et donc il y a eu par exemple dans ce qui est intéressant dans l'entretien qu'Aline Fauchère nous accorde, c'est qu'elle rappelle que dans les années 1990, il y a eu un tournant très important. Il a fallu attendre les années 1990 pour que soit reconnu le viol conjugal.
Ah oui.
Alors, il est reconnu, c'est-à-dire que oui, c'est très tardif. Bon, c'est pas éradiqué, mais il y a quand même, dit-elle, une portée symbolique importante et surtout une possibilité d'agir pour les femmes qui sont victimes de viols conjugaux.
Mmh.
Et ça, évidemment, il faut faire bouger non seulement les mentalités, mais les lois.
Et oui.
Puisqu'il y a une époque où, pour adultère, un mari avait le droit de tuer sa femme. Hein, c'était,
oui,
dans la loi.
Et c'est pas si vieux.
Exactement. Évidemment, la lutte contre pour prévenir les violences conjugales et les pour avant l'irréparable,
oui,
Elle insiste beaucoup sur la communication, sur le numéro 3919, qui est très important. Sur aussi, on va dire, l'éducation, on va dire, des garçons.
Oui, absolument.
Voilà, parce qu'il y a quand même une... On va dire, c'est millénaire, hein, mais il y a quand même des cultures patriarcales qui fait que, bon, il faut éduquer filles et garçons au respect de tout un chacun, quel que soit son genre. Donc voilà, nous avons cet entretien qui est très dense, et qui permet aussi de parler de ce qui se passe ailleurs, pas si, enfin, c'est loin, on va dire, d'un point de vue géographique, mais on aurait pensé que quand même un pays comme les États-Unis ne rentre pas dans une dérive contre les femmes, et or le droit fédéral
à l'IVG
pour l'avortement a été abrogé par la Cour suprême, par les juges de la Cour suprême, juges qui avaient été placés là pour être majoritaires par
Donald Trump,
c'est-à-dire le représentant de l'ultra-droite, de l'extrême droite américaine.
Et c'est ce qu'on constate, ce que donne le conservatisme.
Exactement. Donc, voilà, c'est un entretien qui nous apprend. Qui nous apprend sur l'histoire du CIDF et qui trace aussi les combats pour les femmes qu'il reste à mener. Quoi.
Autre sujet dans cette Marseillaise, l'inauguration de l'école Samuel Paty à Montpellier.
Oui, tout à fait. Donc ça s'est passé vendredi dernier, mais on y revient parce que c'est extrêmement important. Il y avait le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui était présent. Donc, il y a eu deux inaugurations. Hein. Il y a eu l'inauguration d'une école, donc l'école Samuel Paty et Lucie Aubrac.
Oui, l'école
maternelle Lucie Aubrac, c'est une école maternelle, donc Lucie Aubrac, et l'école élémentaire Samuel Paty. Et donc, vraiment, on a la résistance, on va dire... la même résistance, hein, des passeurs de lumière comme était Samuel Paty, qui était professeur d'histoire. Alors c'est vrai que dans la ville de Montpellier, dont le maire est aussi professeur d'histoire, ça aussi un symbole très fort.
Oui.
Mais c'est vrai que voilà, comme l'a dit le ministre de l'Éducation. Il a dit sa fierté d'inaugurer cette école dont le beau nom signifie l'affirmation de la liberté et du pouvoir d'enseigner. Donc voilà, contre toutes les formes d'obscurantisme et de fascisme, on pense à Lucie Aubrac, mais on pense aussi à Samuel Paty, qui a été victime d'une forme de fascisme islamiste, d'intolérance totale, contre cette noirceur qui veut nous jeter dans les ténèbres. Eh bien, il faut que nos établissements scolaires portent des noms qui ont du sens.
Absolument.
Voilà. Donc il faut se rappeler que c'était le 16 octobre 2020 que Samuel Paty a été atrocement assassiné près de son collège, et que donner son nom à une école primaire, c'est un acte fort. Voilà, on ne l'a pas donné 20 ans après, deux ans après.
C'est ça, oui.
Donc c'est très important. Michael Delafosse en a évidemment apporté, a rappelé son attachement, plus que son attachement viscéral aux valeurs de la République. On sait que cet établissement va accueillir 15 classes à terme. Il y a déjà 5 classes qui sont ouvertes avec 125 élèves. Donc, il y a plusieurs quartiers qui vont être concernés. Et ça, c'est bien que cette école grandisse, quoi. Et on peut citer ce qu'écrivait Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison.
Absolument. Quelle belle phrase pour terminer. On passe à un autre sujet, alors tout aussi fort et difficile. Vous avez recueilli un témoignage sur la maladie d'Alzheimer.
Alors, dans le cas de la journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer,
oui.
Nous avons fait le choix de livrer un témoignage d'une femme qui se prénomme Marie, mmh. Qui se définit comme aidante, hein, et qui nous explique qu'elle doit faire le deuil de son mari qui est toujours vivant.
Oui.
Donc son mari est donc atteint par la maladie d'Alzheimer. Il se prénomme Pascal. Donc, il souffre, c'est une variante de la maladie d'Alzheimer, hein,
ouais.
C'est ce qu'on appelle la démence à corps de Lévy, la DCL. C'est une maladie neurodégénérative, complexe, et qui va toucher plusieurs parties du cerveau.
D'accord.
Et donc, à partir, le mari explique et témoigne en disant que les premiers signes, c'était en 2014, il y a des crises de démence, mais elle arrive à trouver quand même en 2020, en s'installant à côté de Nîmes, hein,
oui.
Dans notre région, un collectif d'aide et de soins à la personne. Il a fallu déménager parce que l'habitation précédente était pas adaptée, mmh. Voilà. Elle explique, Marie, que c'est un combat quotidien et elle explique son quotidien aux côtés de son compagnon, évidemment,
ouais.
qu'elle aime, hein, mais qui petit à petit reconnaît de moins en moins sa femme, mmh. Reconnaît de moins en moins ses enfants. Et elle dit aussi, il ne reconnaît plus les quelques proches qui ne leur ont pas tourné le dos. Parce
oui.
que c'est aussi
ça, le
quelque
dans
chose
ce genre de maladie, oui.
qu'il faut souligner, c'est que ces maladies isolent,
mmh.
isolent beaucoup. Or, les familles, les patients, les proches qui les accompagnent doivent être entourés et surtout aidés.
Oui.
Aidés. Donc ça permet de mettre en avant ce témoignage. Les difficultés, il faut regarder les choses en face, hein,
mmh.
puisqu'aujourd'hui, on a plus de 1 175 000 personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer en France.
Oui, et puis je crois que ce sont des chiffres qui augmentent chaque année. Hein.
Disons que le nombre de personnes atteintes devrait doubler en 30 ans en Europe.
Mmh.
Donc évidemment, c'est lié au vieillissement, puisqu'on vit plus vieux, mais il faut... L'objectif d'une société développée, c'est de vivre plus vieux et en bonne santé.
Oui.
Donc tout le travail de prévention, de recherche, doit être extrêmement soutenu. Parce que quand ça se détecte tôt, ça peut être accompagné, même
oui.
si ça ne se guérit pas encore.
Sachant que la recherche avance quand même un petit peu là-dessus. Hein.
La recherche avance complètement. Il faut mettre les moyens dans la recherche. Il faut mettre les moyens dans... les territoires pour mmh. Justement aider les familles et les patients à vivre avec la maladie et à ne pas en souffrir.
Mmh.
Or, ce que nous explique Marie, c'est que les aidants n'ont quasiment aucune reconnaissance.
Mmh.
Hein.
Oui, n'ont aucun statut d'ailleurs.
Un jour, elle a pu mettre des mots sur son état des fois elle dit « je suis au fond du trou
mmh. ».
Et un jour, on a mis des mots sur ce qu'elle ressentait de profond, c'était ce qu'on appelle le deuil blanc.
Mmh.
Elle dit qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire. En fait, elle a compris qu'elle vivait, elle ne vivait plus avec la personne qu'elle avait rencontrée et aimée,
oui.
En disant « Pascal est là, mais il n'est plus là ». Et donc pour Marie, c'est faire le deuil d'un avenir, d'une vieillesse à deux, et c'est une grande souffrance.
Mmh, oui,
voilà, donc c'est un témoignage très fort et qui donc est là aussi pour faire nous faire tous réfléchir, hein, sur sur la nécessité d'être de se battre pour comment dire accompagner et surtout prendre en charge. Et là, les pouvoirs publics ont un rôle fondamental, quoi.
Absolument. Allez, on passe à quelque chose de plus léger, la programmation de la salle mythique de Montpellier, le Rockstore.
Oui, donc, alors c'est une salle évidemment que tous les Montpelliérains et au-delà connaissent.
Hein. Ça s'appelait le Grand Odéon, je crois, avant.
D'accord, d'accord, bah super. Mais oui, oui, ça donc il y a une continuité hein, ça, dans les salles de spectacle qui ont, gardent leur vocation et qui sont aujourd'hui toujours là. Donc en fait, c'est un petit peu pour le Rockstore une renaissance, hein,
ouais.
Puisque bon déjà c'est encore un anniversaire, hein, c'est soufflé ses 36 bougies en octobre. Alors oui, là, c'est une salle qui a été fermée pendant 18 mois à cause évidemment de décisions prises par le gouvernement suite à la pandémie de Covid. Hein. Mais l'équipe a mis les bouchées doubles puisque la saison 2022-2023, c'est plus d'une cinquantaine de concerts. Nous explique Antoine Vinlin, le directeur et le programmateur. Et donc, qui nous pouvons citer? On ne peut pas, faut pas faire de jaloux, mais quand même. Hein. Donc, c'est là où je vois que je suis un peu larguée parce que, ah oui, la Grande Sophie, je connais. Donc, super, il y aura donc la Grande Sophie. Il y aura Cœur de Pirate aussi. Émilie Loiseau, Bertrand Belin. Alors là, Bertrand Belin, moi, je suis personnellement très fan. Il y a du jazz, il y aura de la salsa. Mmh. Et la saison a été lancée par le rappeur C'est Toi, Demi Portion.
Et oui, qui a un festival
voilà.
Sur 7. Demi festival.
Voilà, donc il y aura des soirées clubbing. Mmh.
Ça, c'est à l'étage.
Ça, c'est, donc la première, elle va se nommer Ice Cream, si je prononce bien. qui invite tous les amateurs de hip-hop à se rassembler. Ça sera le 24 septembre.
D'accord.
Ça a l'air sympathique. Hein. Donc, c'est l'idée, c'est de ces soirées, c'est de remonter le temps avec des musiques de chaque décennie. Moi, je vais trouver mon bonheur. Hein. C'est l'objectif de la soirée chronologique qui est prévue le 8 octobre.
Oui.
Et donc... ça sera évidemment un moment, des moments à vivre pour se nourrir de bonne musique, et c'est important. On peut retrouver évidemment, c'est tellement dense et c'est tellement, il y a tellement d'artistes, on renvoie évidemment sur le site de Rockstore pour avoir la programmation complète, pouvoir faire ses réservations et voilà, s'imprégner un petit peu de ce qu'ils vont nous offrir cette année.
Oui, et puis alors pour terminer sur le Rockstore, ils ont fait de gros efforts, notamment sur le son ces dernières années, parce que c'était...
C'est important,
en c'était
musique.
C'était assez inaudible à une époque, la ville a soutenu, on a tout refait à l'intérieur. Et puis bon, rappeler 36 ans de Rockstore, à l'époque il y avait aussi Radio Croco qui diffusait en direct tous les concerts. Enfin, il y a toute une mythologie presque autour de cette salle de concert que l'on adore,
Bruno,
en tout cas.
C'est extrêmement intéressant, oui. Donc c'est à la rue de Verdun.
C'est ça.
Et donc ils espèrent vraiment, l'équipe espère vraiment retrouver un certain niveau de fréquentation. Avec les affiches proposées, on peut s'avancer en disant que on pense que quand même le public sera au rendez-vous.
Oui, il sera au rendez-vous puisque dans tous les cas, le Rockstore est une des rares salles où deux concerts, il y a des salles avec des DJ bien sûr, où il y a des petits concerts, mais une des rares salles de vrais concerts en plein centre de Montpellier.
Eh oui, c'est quand même pas mal.
Eh oui.
C'est bien. C'est pas obligé de prendre, d'être, voilà, notamment pour les publics jeunes ou moins jeunes, hein, oui. Qui peuvent y aller sans forcément... je pense aux jeunes étudiants à Montpellier qui sont quelques milliers et qui, voilà, on en parlera. D'ailleurs, ils sont aussi dans nos colonnes pour dire que bon, ils aimeraient bien aussi pouvoir aller au concert.
Eh bien, on le leur souhaite. Chers auditeurs, vous avez tous les titres de la Marseillaise. On vous conseille de vous diriger vers le kiosque le plus proche et de vous procurer ce nouveau numéro. Nous, Françoise Vernat, on se retrouve évidemment à partir de la semaine prochaine et lundi dans l'émission Quoi de neuf en compagnie d'Olivier Nautel.
Merci beaucoup, Bruno.
Merci, Françoise. À bientôt.
Au revoir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.